Aïe, 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 c'est en train de devenir très compliqué là, pour les gens qui prennent la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes. Je rappelle là qu'ils sont 30 000. 30 000 à tous les jours à utiliser ce train de banlieue. Et là, les travaux du chantier du REM, c'est en train de transformer en enfer la vie de certains de ces usagers. Et tellement là, que là, le gouvernement a dit, là, faut annoncer là, quelque chose là, pour essayer de rendre la vie un peu plus vivable. Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco Nouvelles, était à cette annonce. Bonjour, Philippe.
Salut, Bernard.
Et que c'est compliqué, là. Essaye de nous rendre ça, clair, parce que moi, j'ai lu là 3-4 articles là-dessus, mm-hmm. J'ai de la difficulté à m'y retrouver, mon vieux.
Écoute, si tu voulais avoir quelqu'un qui t'annonce des bonnes nouvelles aujourd'hui, ben ce sera pas moi, c'est certain. Parce que vraiment, Bernard, là, ça va être extrêmement compliqué, pénible, je dirais, pour des dizaines de milliers d'usagers du transport en commun du secteur de montagne, justement, au cours des prochaines années. Ça va pas durer seulement 2-3 semaines, là. Ce qui se passe, c'est que pour la construction du fameux réseau électrique métropolitain ou le réseau express métropolitain, comme on l'appelle maintenant, eh bien, on doit complètement moderniser le tunnel qui passe sous le Mont-Royal. On parle d'un tunnel centenaire. Ça a plus de 5 km de long. Ça a été fait il y a tellement longtemps que là, on n'a pas le choix. Il faut complètement le moderniser. Et pour ça, on doit le fermer, le tunnel. Qu'est-ce qui passe actuellement dans le tunnel sous le Mont-Royal? Il y a la ligne, justement, de train de banlieue qui quitte Deux-Montagnes et qui se rend jusqu'au centre-ville. Donc là, à partir du mois de janvier prochain, 6 janvier prochain pour être précis, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partiellement fermer la ligne Deux-Montagnes. Les trains vont quitter, oui, Deux-Montagnes, mais vont devoir complètement arrêter à la station Bois-Franc, à peu près à mi-chemin. Là. Donc là,
c'est à Saint-Laurent, dans le quartier Saint-Laurent, là.
Exactement. Donc, plutôt que de se rendre au centre-ville, bien là, on fait un arrêt là. Et à partir de la mi-2021, donc juillet 2021, arrêt complet des trains. Il n'y aura plus rien qui va circuler entre le centre-ville et le secteur de Deux-Montagnes. Donc là, imagine les conséquences pour les gens qui empruntent ce train de banlieue-là quotidiennement. Pour te donner une idée, parce qu'on ne veut pas entrer dans les détails pour chaque cas précis, pour chaque utilisateur, mais actuellement, ça prend à peu près 45 minutes faire la ligne au complet, là, dans le cas où quelqu'un part de Deux-Montagnes et se rend jusqu'au centre-ville. 45 minutes. Dans un train climatisé ou chauffé, on s'installe, on lit, on peut même dormir parce qu'il n'y a pas de changement, pas de correspondance. Là, ce qu'on prévoit du côté des autorités, Bernard, c'est que le temps de trajet va minimalement augmenter probablement de 30 à 35 minutes. Donc là, on n'est pas en train de doubler, mais presque. Dans certains cas, pour les gens, par exemple, qui habitent dans le secteur de Roxborough, ces gens-là vont voir leur temps de trajet doublé. Le secteur Mont-Royal-Canora, actuellement, c'est 8 minutes. Ça va prendre 34 minutes. Je ne suis pas un expert en mathématiques, toi non plus, mais on est capable de comprendre que c'est 4 fois plus long que ce sera pour faire le même trajet avec tous les systèmes de navettes ferroviaires, de bus, d'autobus qu'on va mettre en place. Donc, beaucoup de mesures de mitigation, mais des temps de trajet qui vont doubler, tripler ou quadrupler dans certains cas.
Bon, là, tu nous l'as dit, à partir du mois de janvier, le train qui part de Deux-Montagnes et qui traverse Laval ne se rendra plus au centre-ville. Il va s'arrêter donc dans le secteur Saint-Laurent, donc la fameuse gare Bois-Franc. Et là, de la gare Bois-Franc, vont partir quoi? Des autobus, c'est ça?
Il y a des navettes ferroviaires qui vont partir de là. Il y a des autobus qui vont partir de là. Je te donne un exemple précis de la complexité de la chose. Parce que le défi, Bernard, ça va être de faire en sorte que les utilisateurs actuels du transport en commun sur cette ligne de montagne continuent, malgré toutes les correspondances, malgré tout le temps de trajet, le temps de parcours qui va être augmenté, de continuer à prendre le transport en commun. Parce que là, l'option du véhicule solo va... probablement trotté dans la tête de plusieurs personnes. Je te donne un exemple. De quelqu'un qui part de chez lui là, à 6h30 le matin, disons, et qui prend le train à Deux-Montagnes. Donc, il prend l'autobus le matin de la maison pour se rendre à la gare Deux-Montagnes. Donc, un autobus emprunte le train à ce moment-là pour circuler. Il va se rendre jusqu'à dans le secteur de Bois-Franc, donc dans le secteur Ville-Saint-Laurent. Trajet en train. De là, navette ferroviaire de Bois-Franc jusqu'à Côte-Vertu ou navette autobus aussi pour se rendre jusqu'à Côte-Vertu au métro. Donc, un troisième moyen de transport, une autre correspondance. Et une fois rendu dans le métro, doit emprunter le métro et se rendre jusqu'au centre-ville de Montréal. Donc, imagine le temps de parcours, mais aussi les déplacements. Là. On doit attendre, on doit changer, faire des correspondances, marcher entre les différents moyens de transport. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être découragés, ça c'est certain. Ça va toucher, on nous dit, environ 17 000 personnes matin et soir selon les prévisions. Mais ça risque d'être pas mal compliqué. Et déjà, il y a des impacts parce que les travaux ont commencé sur la ligne de montagne. Et déjà, depuis le printemps 2018, on note une baisse d'achalandage de 11 %. Ça risque de diminuer encore plus. La seule chose qu'on veut faire pour les retenir, c'est oui, mettre le plus de transports alternatifs en place. Et aussi, il y aura plusieurs rabais tarifaires qui seront donc offerts aux gens parce qu'on sait très bien que ça va être extrêmement difficile. Mais on dit que c'est un sacrifice, disons, d'une grande partie de la population. C'est un sacrifice pour le bien commun parce qu'à la fin 2023, on aura un nouveau système de transport ultramoderne dans la grande région de Montréal.
Comme dit un auditeur, il ne faut pas oublier non plus les gens de Mascouche hein, qui prennent le train de Mascouche parce qu'eux autres aussi vont être très impactés, n'est-ce pas, Philippe?
Exactement. L'impact va être un peu moindre de ce côté-là, mais oui, il y aura beaucoup de temps d'attente, de transport intermodal. Il y aura beaucoup aussi de temps de parcours qui sera augmenté. Et c'est pour ça que ce sont les utilisateurs, les usagers du train de Mascouche et du train de Deux-Montagnes qui vont bénéficier de certains rabais. Au total, à la fin, là, le REM, là, ça va être 67 stations différentes. Ça va être quand même quelque chose de très bien, que ça va changer, métamorphoser le visage du transport en commun à Montréal. Mais d'ici là, disons qu'il y a des gens qui vont souffrir et pas à peu près.
Philippe Bonneville, journaliste Cogeco Nouvelles. Merci, Philippe.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
On s'en va rejoindre François Pépin, qui est président de Trajectoire Québec, qui s'occupe justement de toute la question du transport collectif. Bonjour, M. Pépin.
Bonjour, M. Drainville.
Coudon, on a-tu planifié ça comme du monde, là?
Je dirais, nous, déjà, on trouve que ça a pris énormément de temps, effectivement, avant de sortir des propositions concrètes, parce que nous, on avait déjà demandé aux différentes autorités des réponses dès le début de 2018. Donc, ça fait presque plus qu'un an et demi. Et je pense quand même les solutions qui sont sur la table là, sont intéressantes pour les usagers. À tout le moins, il va falloir les essayer, suivre le déroulement de la mise en œuvre de tout ça.
OK, mais ma question, c'était, est-ce que les mesures pour aider les gens qui sont impactés par les travaux, est-ce que ces mesures-là ont été bien planifiées?
Bien, oui, je dirais, il y a plusieurs options pour chacune des gares. Il y a quand même des options de bus. Il y a effectivement la navette ferroviaire et puis la navette entre Bois-Franc et le métro Côte-Vertu, là, qui vont être gratuites d'ailleurs. Donc, oui, c'est un ensemble de lignes d'autobus ou d'ajouts de services qui sont offerts aux gens pour leur offrir le plus d'options possibles à partir de chacune des gares.
OK, fait que dans votre esprit, tout est beau? Rien à redire?
Non, écoutez, je vous dirais, c'est sûr que c'est plus long que le train, parce que le train est pas battable. C'est 40 minutes entre Deux-Montagnes et le centre-ville. Quand même, faut comprendre qu'en auto, c'est souvent 1h15, donc faut faire la part des choses. C'est sûr que l'idéal aurait été des bus directs qui partent de Deux-Montagnes, qui se rendent au centre-ville, sauf qu'en période de pointe, avec le niveau de congestion qu'on a aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Par contre, ce type de service-là va être offert en hors-pointe puis les fins de semaine. Donc, il y a eu beaucoup d'ajouts par rapport aux premières ébauches là, qu'on avait vues en février.
Mais est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression qu'on découvre le côté pas mal moins plaisant du REM? Parce que au départ, dans les premières années, même pas juste les premiers mois, les premières années, on avait l'impression que tout ce projet-là, c'était qu'il n'y avait que du positif. Et là, on se rend compte que il y a une phase de négatif là qu'il va falloir endurer. Là, il y a des gens qui vont payer pour ça là.
Oui, ben je veux dire, tout le monde s'en est rendu compte l'année passée quand effectivement il y a eu un groupe de travail d'usagers avec justement les gens du REM pour voir ça. Donc les gens étaient déjà au courant que le train allait fermer. Même, je vous dirais, la Caisse de dépôt a fait amende honorable ce matin parce que au BAP en septembre 2016, ils avaient effectivement annoncé que le train serait exploitant tout le temps. Et ce matin, ils ont dit que c'était pas possible, donc ils essaient de faire autre chose. Mais donc, ils ont mis des attentes extrêmement hautes. Je dirais le chantier fonctionne à un rythme à peu près infernal. Et ça bouscule effectivement tous les partenaires, mais ça bouscule surtout les usagers. Parce que dans ma tête, le transport collectif est supposé être au service de l'usager, non le contraire. Donc, on en est là actuellement.
Là, j'ai des textos. Là. Je pars de Deux-Montagnes et l'offre proposée est irréaliste. Le boulevard Marcel-Lorrain est bouché le matin, donc le transfert entre le train et le métro sera beaucoup plus long que ce qu'ils annoncent. Il faut tout de même monter à bord de ces navettes et en descendre. Côte-Vertu est également bloquée. Il faut sensibiliser les employeurs à nous offrir des options de télétravail. Je travaille pour une société d'État et outre l'horaire flexible, ils ne nous offrent rien. Quelqu'un d'autre me dit « Une bonne partie des gens affectés vont se rabattre sur l'auto. Imaginez le trafic qu'on verra sur la 13. » Quelqu'un d'autre me dit « J'ai déjà mon permis de stationnement pour le centre-ville payé par mon employeur. Les moyens alternatifs sont complètement déraisonnables. Je vais donc polluer. » Moi, je suis certain, M. Pépin, qu'il y en a beaucoup qui vont se rabattre sur la voiture parce que ça va devenir un moindre mal.
Oh, par contre, un moindre mal, ça dépend. Je dirais, regardez les gens, là, actuellement, ça leur prend 1h15. S'il y a plus d'auto encore sur la route, on s'en va vers des 1h30, 2h pris dans la congestion, sans compter le coût du stationnement au centre-ville. C'est certain qu'il y en a qui vont le faire déjà. D'ailleurs, comme le disait votre collègue, il y a eu une baisse de 11% sur le train de montagne. Donc, ces gens-là sont ailleurs. On ne sait pas si c'est en auto. On espère que non. Mais moi, je dis, faut l'essayer au mois de janvier. Il faut voir avant de se réfugier dans son véhicule automobile.
Oui. Vous dites, essayez les mesures de mitigation, puis si ça ne fonctionne pas, vous vous rabattrez sur votre voiture ensuite. On verra bien. Oui, c'est ça. 790-9850. Je ne sais pas si vous avez le goût de participer à cette discussion-là. En tout cas, quand je regarde le nombre de textos qui rentrent présentement, je pense que la réponse, c'est oui.
On va se
laisser là-dessus, François Pépin, parce que je veux bien prendre quelques appels et textos et courriels au retour. Donc, 790-9850, 98985 par texto, Drainville à commercial, 985fm.ca. Comment vous réagissez aux mesures qui sont proposées? Comment vous vivez les travaux sur le REM présentement? Vous n'hésiterez pas à m'en faire part. François Pépin, président de Trajectoire Québec, je vous remercie.
Merci, bonne journée.
Alors, il y en a plusieurs qui me disent « je vais changer d'emploi ». C'est impossible d'arriver à temps pour la garderie, me dit Steve. Quelqu'un d'autre m'écrit « je vais devoir changer de job ». C'est Alain qui nous appelle au 790-9850. Bonjour, Alain.
Oui, M. Drainville.
On vous écoute.
Ça va bien?
Ben oui, ça va. Vous, est-ce que ça va?
Bon, écoutez, moi, je j'utilise pas le moyen de transport. Je suis à la retraite, j'ai travaillé dans un centre hospitalier. Puis moi, je trouve qu'au Québec, on est mal géré, c'est mal organisé. J'en ai le feu au derrière, c'est bien simple, là. Ça n'a pas d'allure. Moi, je trouve, je sympathise avec les gens qui prennent le train puis tout ça, là. Ça pue d'allure. Il y a quelque chose qui se niaise à quelque part. Les travaux à Montréal, c'est la même maudite affaire. C'est tout du gna-gna-gna devant les caméras. Tout est beau. Les gens qui sont en inondation à Sainte-Marthe-du-Jour-la-Larque, regardez ça, là. Ça traîne encore. Qu'est-ce que ça va être pour ceux de cette île, là? Ils vont attendre aussi, hein?
Merci, bon, Alain.
Je vous le dis, moi.
Merci, c'est Alain, pour l'appel. Sylvain, bonjour. 790-9850. Bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
On vous écoute.
Écoutez, moi, oui, le monsieur précédent était choqué, un peu frustré. Moi aussi, je pourrais être frustré, puis c'est vrai. Sauf qu'on doit travailler notre ville, qui est la ville de Montréal, une des plus belles dans le pays. Écoutez, les transports, ils doivent se faire. Tout se doit se faire. Le Parti libéral, M. Charest et compagnie, ont été négligents depuis ce temps-là. Sauf que les travaux doivent se faire pour avoir de la modernisation. Je suis bien d'accord. Moi, je me prépare, je sais, j'habite la Rive-Sud. Je me prépare, je sais qu'on va travailler dans le tunnel. Mais au lieu de parler de partir plutôt à 6h du matin, je vais partir plus de bonne heure, me préparer, et puis me préparer psychologiquement aussi, que je suis en train déjà de faire. Puis je pense que tout le monde devrait faire sa part. Tout le monde devrait s'organiser en conséquence.
Très bien.
C'est tout. C'est pour la modernisation, M. Drainville.
Merci, Sylvain. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait écho à ce que vous dites, qui me dit « Bernard, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. » Oui. Très bien. Par contre, il y en a beaucoup d'autres qui me disent, bon, par exemple, j'étais 100% pour le REM parce qu'on m'avait dit que les impacts seraient minimes. Visiblement, ils commencent à douter un petit peu. Un autre auditeur qui m'écrit, je vis à Pierrefonds-Roxborough, qui est sur la ligne du train de Deux-Montagnes. Le train de banlieue, c'est fini à jamais pour moi, dit-il. Une chance que je n'ai pas vendu ma voiture. Un autre auditeur m'écrit, la seule chose fiable sur laquelle vous pouvez compter, c'est l'incompétence scandaleuse des fonctionnaires du ministère des Transports. Bonjour, Jean.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je compare aux gens qui demeurent à Laval, qui travaillent au centre-ville. Ils font facilement 2h30 de voyagement par jour. Mais ces gens-là, ils ont décidé de rester à Laval. On s'entend?
Oui.
Donc, ils ne seront pas à l'exception là, de ce qui se fait au Québec. Puis deuxièmement, le REM, quand ça va être fait, ça va être exceptionnel pour ces gens-là.
OK, donc vous, vous dites, prenons notre mal en patience. Comme ils disent en latin, « short-term pain for long-term gain », c'est ça?
Exactly.
Merci, Jean. Merci pour l'appel. Je ne sais pas si ça va être d'un grand confort, par contre, pour tous ceux et celles qui nous écrivent et qui nous écoutent et qui vont vivre avec les conséquences de ce chantier. Alors, vous êtes quelques-uns, évidemment, à vous, à vous moquer un petit peu de tous ceux et celles qui vivent à Montréal et dans la grande région de Montréal. Là, j'ai quelques textos du genre « Et qu'on est bien en région et qu'on est bien à la campagne, etc. etc. » Jean-Marc, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, je voulais amener le point aussi quand on parle d'organisation des travaux.
Oui.
Déjà, on parle que les 17 000 ou 30 000 personnes vont se retourner vers les voitures. Mais si on regarde déjà en plus sur la 13, on a les travaux au pont Buisson qui font que déjà on a des congestions presque à toute la longueur de la journée. Et un peu plus loin, on a les travaux à l'intersection de la 40 et de la 13. Donc, quand on parle d'essayer de planifier et d'organiser les travaux, il me semble qu'il aurait pu ne pas tout faire en même temps. Je veux dire, les travaux pour le pont Buisson vont aller jusqu'en 2020. Les travaux pour l'intersection de la 13 et de la 40 vont jusqu'en 2022. Donc, la 13 va devenir complètement l'enfer. Et là, on va rajouter les gens qui étaient les usagers du train de Deux-Montagnes. Donc, ça va être véritablement l'enfer.
Oui, on en a encore pour quelques années, effectivement, à vivre des moments extrêmement frustrants sur notre circuit routier dans la grande région de Montréal. Alex qui m'écrit, il dit « Certains usagers du train de Deux-Montagnes vont se rabattre sur le train de Blainville depuis les gares de Sainte-Thérèse et de Sainte-Rose. » En d'autres mots, ça va bouleverser les autres lignes également et les stationnements incitatifs. Quelqu'un me dit, écoutez, moi, je marchais pour aller manger. Attendez un peu, je le retrouve là. Alors voilà, j'ai 30 minutes pour dîner et je viens manger chez moi à la maison, imaginez. Donc, elle anticipe cette personne-là que ça va être vraiment très, très, très difficile. OK, on s'arrête et au retour, on continue, on lâche pas.